Chapitre 25. Je dors un peu, me réveille, sombre à nouveau dans le sommeil et me réveille une fois encore. Je voudrais assister à son apparition. Mais tout à coup, je me rends compte qu'elle est déjà là, assise sur la même chaise qu'hier. Les aiguilles fluorescentes du réveil indiquent un peu plus de 3 heures. Les rideaux de la fenêtre que j'avais pourtant fermés sont ouverts, comme hier. Mais il n'y a pas de lune. C'est la seule différence. Les nuages sont épais, il tombe peut-être quelques gouttes au dehors. Dans ma chambre, il fait beaucoup plus sombre qu'hier soir. La lueur des projecteurs au fond du jardin filtre à peine à travers les arbres. Il faut un peu de temps à mes yeux pour s'habituer à l'obscurité. La jeune fille, la joue posée dans sa main, regarde le tableau accroché au mur. Elle porte les mêmes vêtements qu'hier. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne parviens pas à distinguer ses traits. Étrangement, pourtant, les contours de son corps se découpent nettement dans l'obscurité. Cela ne fait aucun doute. C'est Mademoiselle Saeki quand elle était jeune. Elle semble plongée dans ses pensées. Ou dans un rêve profond. Ou peut-être que cette jeune fille est le rêve profond de Mademoiselle Saeki. Je retiens mon souffle pour ne pas troubler le fragile équilibre de cette scène. Je reste parfaitement immobile. De temps à autre, je jette un coup d'œil au réveil. Le temps passe lentement, uniformément. Soudain, mon cœur se met à battre la chamade. On dirait que quelqu'un frappe de violents coups sur une porte. Ces bruits sourds retentissent dans la chambre silencieuse plongée dans la nuit. Je suis si surpris que je manque me lever. La jeune fille tressaille. Elle lève la tête, tend l'oreille dans le noir. Le battement de mon cœur parvient à ses oreilles. Elle incline un peu la tête, comme un animal de la forêt attentif à un bruit inhabituel. Ensuite, elle se tourne vers mon lit. Elle ne me voit pas, je le sais. Je ne fais pas partie de son rêve. Elle et moi sommes dans deux mondes différents, séparés par une ligne de démarcation invisible. Mon cœur se calme aussi brusquement qu'il s'est emballé. Ma respiration s'apaise. J'efface à nouveau ma présence. La jeune fille cesse de tendre l'oreille. Elle regarde Kafka au bord de la mer. Comme avant, la joue dans la main, un coude posé sur le bureau, elle est perdue dans la contemplation du garçon sur la plage, un été de sa jeunesse. Elle reste une vingtaine de minutes, puis s'en va comme hier. Elle se lève et se dirige pieds nus, sans faire de bruit, vers la porte à travers laquelle elle disparaît. Je reste immobile encore un moment, puis je me lève. Je n'allume pas la lumière. Je m'assieds simplement, dans le noir, sur la chaise où l'adolescente pensive était encore installée un instant auparavant. Je pose mes mains sur le bureau, cherchant à absorber ce qu'il reste de sa présence. Je ferme les yeux. Je conserve en moi la trace de son cœur tremblant pour en imprégner le mien. Je prends conscience de ce qui me relie à la jeune fille. Nous sommes tous deux amoureux d'un être qui n'est plus de ce monde. Peu après, je sombre dans un sommeil agité. Mon corps fatigué cherche le repos, mais ma conscience refuse de s'endormir. Je balance entre les deux comme un pendule. Plus tard, alors que le jour commence tout juste à se lever, les oiseaux du jardin entament leur premier concert et leur chant me réveille complètement. J'enfile un jean, une chemise à manches longues par-dessus mon t-shirt et je sors. Il est à peine 8 heures du matin, le quartier est désert. Je passe devant une rangée de vieilles maisons, traverse la pinède qui fait barrage au vent, dépasse la digue et arrive à la plage. Une légère brise effleure ma peau. Le ciel est couvert de nuages gris, mais rien n'indique qu'il va pleuvoir dans l'immédiat. La matinée est calme. Les nuages semblent absorber les bruits de la terre comme une couche de matériaux insonorisants. Je me promène un moment le long de la plage, en imaginant que le garçon du tableau a dû marcher lui aussi sur cette digue, sa chaise de toile à la main, cherchant un endroit où s'asseoir. Mais je n'arrive pas à deviner où il s'est installé. Dans le paysage du tableau, on ne voit que la digue, l'horizon et les nuages, et une île au loin. Mais il y a plusieurs îles posées sur la mer. Je ne me souviens pas assez nettement de la forme de celle du tableau. Je m'assieds sur le sable face à la mer, forme un cadre avec mes doigts, et j'essaie de me représenter un jeune garçon sur la plage. Une mouette blanche erre dans le ciel sans vent. De petites vagues viennent se briser sur la plage à intervalles réguliers, laissant derrière elles de petites bulles et des courbes douces dessinées sur le sable. Je me rends compte que je suis jaloux du garçon du tableau.
« Tu es jaloux du garçon du tableau ?» susurre à mon oreille le garçon nommé Corbeau. « Tu es jaloux d'un adolescent mort à 20 ans, assassiné pour rien ?» Juste parce qu'on l'avait pris pour un autre il y a 30 ans de cela. Si violemment jaloux que tu en suffoques. C'est la première fois de ta vie que tu éprouves un sentiment pareil. Maintenant, tu sais ce que c'est que la jalousie. Elle te brûle le cœur comme un feu dans la plaine. Depuis ta naissance, tu n'as jamais envié personne. Tu n'as jamais désiré être un autre. Mais à présent, tu envies ce garçon du fond du cœur. Tu voudrais être lui, même si tu sais qu'il a été torturé et tué à coups de barre de fer. Oui. En dépit de cela, tu voudrais devenir cet adolescent pour pouvoir aimer de tout ton cœur Mademoiselle Saiki pendant ces 5 années et être toi aussi aimé d'elle. Tu voudrais pouvoir la prendre dans tes bras. Tu voudrais faire l'amour avec elle encore et encore. Toucher les moindres parcelles de son corps et qu'elle touche le tien de la même façon. Et tu voudrais qu'après ta mort, le souvenir de votre amour reste gravé en elle pour toujours. Tu voudrais que, chaque nuit, elle t'aime en souvenir. Oui, tu es dans une bien étrange situation. Amoureux d'un fantôme, jaloux d'un mort. Pourtant, tes sentiments sont plus intenses et plus douloureux que tous ceux que tu as pu éprouver jusqu'à présent. Il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas la moindre chance d'en trouver une. Car tu t'es égaré dans le labyrinthe du temps. Et le plus grave, c'est que tu n'as aucun désir d'en sortir. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Oshima arrive un peu plus tard qu'hier. En l'attendant, je passe l'aspirateur au rez-de-chaussée et à l'étage et poussette avec un chiffon humide les tables et les chaises, ouvre les fenêtres et les essuie, nettoie les toilettes, vide les poubelles, change l'eau des vases. J'allume la lampe, mets l'ordinateur en marche. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Oshima vérifie que tout est bien fait et hoche la tête, l'air satisfait. « Tu apprends vite et tu travailles avec efficacité. » Je fais chauffer de l'eau, lui prépare du café. Moi, je bois un Earl Grey comme hier. Il se met à pleuvoir assez fort. On entend même des coups de tonnerre au loin. Il fait sombre comme au crépuscule alors qu'il n'est pas encore midi. Oshima-san, j'ai quelque chose à vous demander.
Je t'écoute.
Pourrais-je me procurer quelque part la partition de Kafka sur le rivage ? Il réfléchit un peu.
Si je peux la trouver sur Internet, je te la téléchargerai. Je verrai ça plus tard.
Merci. Oshima s'assied au bout du comptoir, laisse tomber un minuscule morceau de sucre dans son café, le remue méticuleusement avec une cuillère.
Cette chanson t'a plu alors ?
Oui, beaucoup.
Moi aussi j'aime ce morceau. Il est beau et original à la fois. Tout en étant simple, il a de la profondeur. Il révèle beaucoup de la personnalité de la compositrice.
Les paroles sont très symboliques pourtant.
La symbolique est indissociable de la poésie. comme le rhum l'est des pirates.
Croyez-vous que Mademoiselle Saiki comprenait ce que ces mots signifiaient ?
Oshima lève la tête, tend l'oreille au coup de tonnerre lointain, comme pour mesurer à quelle distance a éclaté l'orage.
Puis il me regarde et secoue la tête.
« Pas forcément. Le symbolisme et la signification ne sont pas la même chose. Elle a sans doute réussi à trouver les mots justes en outrepassant le sens ou la logique. Elle a saisi au vol les mots comme on attrape délicatement les ailes d'un papillon voletant autour de soi. Les artistes ont le droit de ne pas se montrer trop prolixes. »
« Vous voulez dire que Mademoiselle Saiki aurait trouvé ces mots dans un autre espace ? Dans celui d'un rêve, par exemple ?
C'est plus ou moins le cas de tous les grands poèmes. Si les mots ne parviennent pas à se frayer un chemin prophétique, à traverser un tunnel les reliant à la conscience du lecteur, cela n'a plus grand-chose à voir avec un poème.
C'est pourtant le cas d'un grand nombre de poèmes.
Exactement. Une fois qu'on a compris le procédé, ce n'est pas très compliqué de faire semblant. Il suffit d'utiliser des mots qui ont une résonance symbolique et l'ensemble peut avoir l'air d'un poème.
Mais dans Kafka sur le rivage, on a un sentiment d'urgence, on sent une gravité.
Je suis de ton avis. Les paroles n'ont rien de superficiel. Mais dans ma tête, elles sont tellement inséparables de la mélodie que je serais incapable de juger exclusivement la forme poétique et sa force de conviction, dit Oshima. Il secoue légèrement la tête avant de poursuivre. En tout cas, elle avait un don naturel, un vrai sens musical. Elle avait aussi suffisamment d'esprit pratique pour saisir les occasions qui se présentaient. Si ce terrible accident n'était pas arrivé, si elle n'avait pas renoncé à la vie, son talent aurait pu se déployer beaucoup plus librement. Tout cela est vraiment regrettable à plus d'un titre.
Où est passé ce talent alors ?
Oshima me regarde fixement. Tu me demandes où est passé le talent de Mademoiselle Saiki après la mort de son petit ami ?
Je fais oui de la tête. Si le talent est une sorte d'énergie naturelle, il devrait trouver un moyen ou un autre de s'exprimer, non ?
Je ne sais pas, dit Oshima. On ne peut pas savoir où il va se loger. Il peut disparaître sans faire de bruit, ou bien se retirer en profondeur, comme une nappe d'eau sous la terre, et suivre des directions inconnues.
À moins que Mademoiselle Saiki ait décidé de concentrer son talent sur autre chose que la musique.
Autre chose ?
Oshima fronce le sourcil, l'air intéressé.
Quoi, par exemple ?
Je ne trouve pas les mots. Je ne sais pas. C'est juste une impression que j'ai eue. Des choses intangibles, par exemple.
Des choses intangibles ?
Je veux dire qu'elle a pu poursuivre quelque chose d'invisible aux autres, comme une sorte de travail intérieur.
Oshima tend la main vers son front, relève sa mèche. Ses cheveux semblent couler entre ses doigts fins. C'est une idée intéressante. Peut-être a-t-elle consacré son talent à une de ces choses intangibles dans un endroit que nous ne connaissons pas, après avoir quitté cette ville. Mais elle a disparu pendant 25 ans. On ne peut pas savoir ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, à moins de le lui demander directement.
J'hésite un peu, puis je prends mon courage à deux mains. Dites, Oshima-san, je peux vous poser une question vraiment absurde ?
Une question vraiment absurde ?
Je rougis. Tout ce qu'il y a de plus absurde.
Si tu veux, je ne déteste pas l'absurdité.
J'ai du mal à croire moi-même que je vais prononcer ces mots devant quelqu'un. Mais...
Oshima penche la tête légèrement, attendant la suite.
Serait-il possible que Mademoiselle Saiki soit ma mère ?
Oshima ne dit rien. Appuyé à son bureau, il cherche ses mots en prenant son temps. J'écoute le tic-tac de la pendule. Enfin, Oshima ouvre la bouche. Tu veux dire qu'après avoir quitté Takamatsu à l'âge de 20 ans, Mademoiselle Saiki serait partie seule quelque part où elle aurait rencontré M. Koichi Tamura, l'aurait épousé, aurait eu le bonheur de te mettre au monde, puis au bout de 4 ans, pour des raisons qui nous échappent, elle aurait quitté le foyer conjugal en t'abandonnant. Ensuite, après quelques années dont on ne sait rien, elle serait revenue dans son shikoku natal. C'est bien cela?
Oui.
On ne peut pas exclure cette possibilité. Ou plutôt, disons qu'aucune base ne permet de rejeter cette hypothèse pour le moment. Une longue période de la vie de Mademoiselle Saiki est enveloppée de mystères. Selon certaines rumeurs, elle aurait vécu à Tokyo. Et puis, elle a à peu près le même âge que ton père. Mais elle est revenue seule à Takamatsu. Évidemment, même si elle a eu une fille, il se peut très bien que celle-ci vive ailleurs. Quel âge aurait ta sœur maintenant, au fait ?
21 ans.
Comme moi, dit Oshima. Mais je ne suis pas ta sœur. J'ai mes 2 parents et un frère aîné, tous du même sang. Ils sont trop bien pour moi, d'ailleurs.
Il croise les bras, m'observe quelque peu.
À propos, moi aussi j'ai une question à te poser. As-tu déjà regardé ton acte de naissance ? Il pourrait t'apprendre le nom et l'âge de ta mère.
Je l'ai fait, bien sûr.
Et comment s'appelait ta mère ?
Son nom ne figure pas sur l'acte de naissance.
Oshima semble stupéfait. Ce n'est pas possible.
Pourtant, il n'y était pas. Je ne sais pas pourquoi. Du point de vue de l'acte de naissance, je n'ai pas de mère, ni de sœur. Seuls mon père et moi y figurons. Légalement, je suis un enfant naturel, illégitime.
Mais en réalité, tu avais bien une mère et une sœur.
Je fais oui de la tête. Jusqu'à l'âge de 4 ans, j'avais une mère et une sœur. On vivait tous les 4 dans une maison. Je m'en souviens clairement. Je ne l'ai pas inventée. Elles ont quitté la maison peu après mes 4 ans.
Je prends dans mon portefeuille la photo où ma sœur et moi jouons sur une plage. Oshima la regarde un moment, sourit, puis me la rend en disant « Kafka au bord de la mer !»
J'acquiesce du menton, puis remets la vieille photo dans mon portefeuille. Dehors, le vent souffle par rafales et la pluie frappe les vitres. La lampe qui nous éclaire du plafond fait jouer nos ombres sur le plancher, comme celle de 2 comploteurs dans un monde à l'envers.
Tu ne te souviens pas du visage de ta mère ? Si tu as vécu 4 ans avec elle, tu devrais te le rappeler un peu, non ?
Je secoue la tête. Je n'arrive absolument pas à m'en souvenir. Je ne sais pas pourquoi, dans ma mémoire, à la place de son visage, il y a une tache sombre, un vide.
Peux-tu m'en dire un peu plus sur les raisons qui te font supposer que Mademoiselle Saiki pourrait être ta mère ?
Ça suffit, dis-je. Changeons de sujet. Je crois que j'ai un peu trop gambergé, c'est tout.
Ne t'en fais pas. Dis-moi juste ce que tu as en tête, dit Oshima. Ensuite, nous pourrons juger ensemble si c'est de l'affabulation ou non.
Sur le sol, son ombre suit ses mouvements. On dirait qu'elle est légèrement exagérée. Entre l'histoire de Mademoiselle Saiki et la mienne, il y a un tas de choses qui coïncident exactement, dis-je. Elle s'emboîte comme les pièces manquantes d'un puzzle. C'est en écoutant Kafka sur le rivage que je l'ai compris. Pour commencer, je suis venu jusqu'à cette bibliothèque comme si quelque chose m'y attirait. J'ai fait le voyage presque directement de Nakano. C'est très étrange quand on y pense.
Une vraie intrigue de tragédie grecque.
Et puis, je suis amoureux d'elle.
De Mademoiselle Saiki ?
Oui, je crois.
Tu crois ? Répète Oshima en fronçant les sourcils. Tu crois que tu es amoureux ? Ou tu crois que c'est d'elle que tu es amoureux ?
Je rougis de nouveau. J'ai du mal à expliquer. Si compliqué moi-même, je n'ai pas encore tout compris.
Mais tu crois être amoureux d'elle ?
Oui, dis-je. Très amoureux.
Tu crois être très amoureux d'elle ?
Je fais oui de la tête.
Et en même temps, tu continues de penser qu'elle pourrait être ta mère ?
Je hoche de nouveau la tête. Pour un adolescent de 15 ans encore imberbe, tu te charges de fardeaux bien lourds, fait remarquer Oshima. Il boit lentement une gorgée de café, repose la tasse sur la soucoupe. Je ne dis pas que c'est mal, juste que toute chose a ses limites. Je me tais. Oshima pose ses doigts sur ses tempes et réfléchit un moment. Puis il croise ses fines mains devant sa poitrine. Je te trouverai dès que possible la partition de Kafka sur le rivage. En ce qui concerne le travail, je peux m'occuper de ce qui reste. Pourquoi ne retournes-tu pas te reposer dans ta chambre ?